les émissions des quartiers.
Pour un outil dédié aux habitants.
On m'a formé comme journaliste.
La radio part à votre rencontre.
À Ivry, il se passe des choses qui sont positives. Et juste, c'est juste pour en parler. Une radio, je pense que ça doit servir à ça.
Un espace d'expression complètement libre où chacun peut intervenir.
C'est aussi des rencontres, des échanges avec les jeunes, les moins jeunes.
Il faut parler ensemble, quoi. Faut y aller, faut dire toutes ces choses. C'est peut-être un peu ridicule, mais c'est ce qui fait la vie ensemble.
Les émissions des quartiers
sur Principe Actif.
Eh bien, bonjour tout le monde. Je suis en compagnie de Laureline, Tom et Dylan. Ici, on est chaud. Nous voilà repartis sur l'émission des quartiers. Nous sommes dans le cadre d'un projet scolaire au collège Georges Politzer. Laureline va faire le sommaire. Bonjour Laureline.
Bonjour, je vais vous parler du sommaire. Nous allons démarrer par ma chronique qui parle de danse urbaine, hip-hop, dancehall. J'interviewerai Messaoud et Luc, organisateurs de Amazing Day. Ensuite, nous retrouverons Dylan qui parlera de restauration et qui aura pour invité Michael, cuisinier au Seven. Et enfin, nous terminerons avec Tom qui a choisi de s'intéresser au piratage informatique et aux logiciels libres. Tout de suite, nous retrouvons Clément qui va nous parler du coût de la vie.
Buenas noches.
Tu parles espagnol?
Un poquito.
Mais tu crois que tu m'impressionnes? Moi, je sais dire allons à la plage, monsieur Renard. Vamos a la playa, señor Zorro.
Principe actif. Le mythe des cultures.
Bonjour Yannick.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Ben, ça va. Un peu tendu. J'ai jamais fait ce genre d'interview.
D'accord. Ben, je me présente, je suis Clément. Et on est sur le plateau de la radio Principe Actif. Aujourd'hui, on vous accueille, Yannick, bénévole à l'association de consommateurs UFC Que Choisir. Je suis vraiment très heureux de vous recevoir, Yannick, et je vais vous poser des questions par rapport au coût de la vie.
Mmh.
Êtes-vous prêt?
Je suis prêt.
D'accord. J'ai le sentiment que les prix, que ce soit pour les vêtements, l'alimentation, les loisirs comme les jeux vidéo, augmentent tous les ans. Est-ce vrai?
Disons que je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette impression, parce qu'en fait, vous ne parlez que d'impression. Il y a des produits qui augmentent régulièrement, et l'impression générale fait qu'on ressent une augmentation régulière. Mais parfois, il y a des produits qui n'augmentent pas, et d'autres, peut-être même descendent. Mais c'est vrai qu'une impression, on a vraiment cette impression que ça augmente. Mais ce n'est pas tout à fait tous les produits.
D'accord, merci d'avoir répondu à ma question. Comment expliquer cette augmentation?
Alors, c'est toujours pareil. Comment expliquer cette impression d'augmentation? Eh bien, c'est-à-dire qu'on a le sentiment quand même que ce pouvoir d'achat diminue. C'est pour ça qu'on a cette impression d'augmentation. Mais il y a peut-être aussi des éléments qui font que les médias nous disent tout le temps que les prix augmentent à l'INSEE, mais quand on s'aperçoit que c'est de 0,6, c'est tellement sensible qu'on ne peut pas s'en apercevoir. Alors, c'est peut-être simplement consécutif à des charges, puis à notre manière de consommer aussi.
Au 1er janvier 2014, il y a eu une augmentation de la TVA. Pouvez-vous nous expliquer ce que cela veut dire?
Alors déjà, la TVA, c'est la taxe sur la valeur ajoutée. Et ça, c'est une taxe qui est directement facturée aux clients sur les biens qu'ils consomment et sur les services aussi. Alors, c'est vrai que nous sommes passés au 1er janvier, pour la plupart des produits que nous consommons, de 19,6 à 20%. Ça fait très peu. Mais il y a quatre taux de TVA. Il y a celui qui est passé, disons, de 10 alors qu'il était à 7. Bon, il y a une TVA, un taux qui ne change quasiment pas, c'est celui de 5,5. Qui est sur pratiquement tous les produits alimentaires.
Mais
puis
pourquoi?
Il y en a un autre.
D'accord.
Comment?
J'allais dire pourquoi.
Pourquoi ça ne change pas? Peut-être parce que c'est les produits de base que la plupart des consommateurs français utilisent.
Qu'est-ce que justifie la valeur d'un produit?
Alors, qu'est-ce qui justifie la valeur d'un produit? Alors, produit, sa valeur, on peut dire qu'il est fonction de son coût de production, de la fonction aussi, si jamais il est important à être utilisé. Et puis aussi la fameuse marge qu'utilisent tous les revendeurs. Et ensuite, il y a aussi l'offre et la demande. Parce que plus il y a d'offres, les fabricants en produisent davantage. Et peut-être qu'il faut davantage de personnel. Alors, l'idéal, c'est l'adéquation entre le besoin et le service. Et puis, il y a toujours ces fameuses taxes. Mais il y a aussi quand même un produit dont on ne parle pas beaucoup, c'est les produits de luxe. Alors là, eux, on ne peut pas dire qu'ils aient une valeur, parce qu'il y a peu de gens et ils sont prêts à mettre n'importe quel prix pour pouvoir acheter ces produits-là. C'est pour ça qu'on parle de la demande.
D'accord. Que peut-on faire pour lutter contre cette augmentation ?
Ben, on en revient un peu comme tout à l'heure, c'est-à-dire cette impression d'augmentation. Parce que je ne peux pas dire que ça augmente tout le temps, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ben, c'est probablement consommer différemment. Consommer différemment, peut-être aussi éliminer, disons, de façon intelligente tous nos déchets pour qu'il y ait des réutilisations de matériaux. Parce que tous ces produits utilisent des matières premières, et ces matières premières, elles coûtent de plus en plus cher, puisqu'il faut aller de plus en plus loin pour les extraire, ou éventuellement, parce qu'il y en a de moins en moins, quoi.
Et si les prix baissaient, est-ce que ça pourrait aider les gens ?
Si les prix baissaient, est-ce que les prix augmentent vraiment ? Je ne sais pas. Si les prix baissaient, je pense qu'effectivement, on aurait l'impression aussi que ça aiderait les gens. Mais si les prix baissaient, peut-être qu'il y aurait moins de production, ou alors on paierait moins les gens. Je crois qu'il n'y a pas de règle là-dessus. Il y a une chose de certaine, c'est qu'il faut que nous consommions différemment et de façon beaucoup plus intelligente.
D'accord. Est-ce que cela leur redonnerait du pouvoir d'achat ?
Ponctuellement, je pense que ça pourrait donner du pouvoir d'achat, mais je dis bien ponctuellement, parce qu'on est encore dans le questionnement que nous avions au début. C'est toujours sur l'impression, et sur l'impression, les gens auraient le sentiment d'avoir un peu plus d'argent à dépenser, mais ça ne durera pas. Arrivé à un moment, les gens pourraient peut-être avoir leur salaire, voir leur salaire diminuer, ou... Je ne sais pas vraiment. Moi, je ne suis pas un économiste, mais ce sont des ressentis.
D'accord. Pouvez-vous nous livrer quelques bons plans qui me permettraient, par exemple, d'acheter moins cher mes produits préférés ?
Alors, on est toujours dans cette consommation intelligente. Alors, pour acheter moins cher, je pense que des fois, il y a des produits... Et je crois qu'on y revient de plus en plus. Il y a des produits d'occasion. Des produits d'occasion qui sont en très, très bon état. À qui on donne une deuxième vie, et ils sont moins chers. Ce sont parfois des très bons produits qui peuvent faire 2-3 personnes, qui peuvent être utilisés par 2-3 personnes. Il y a aussi Internet. Internet, ça coûte effectivement peut-être un petit peu moins cher, mais là, il faut vraiment, vraiment se méfier, parce qu'il y a beaucoup d'escroqueries derrière, et ça coûte moins cher si on se fait escroquer, je ne sais pas. Bon, par contre, je ne sais pas, pour les jeunes, s'ils utilisent tous leur carte bleue et tout ça, lorsqu'ils vont sur Internet, mais c'est là qu'il faut se méfier. Hein. Ne jamais donner trop d'informations par rapport à sa carte.
D'accord. Je vous remercie d'avoir répondu à mes questions, Yannick. Mmh. Yannick est bénévole à l'association de consommateurs UFC Que Choisir.
Bon. Merci, bonne journée.
Oui, bonne journée.
Au revoir.
Au revoir. Et maintenant, on attaque à mon micro-trottoir par rapport au coût de la vie. J'ai posé des questions aux passants et ils m'ont répondu. D'après vous, pourquoi les prix augmentent ?
Pourquoi les prix augmentent ? Eh bien, déjà, une, parce que il n'y a plus de travail, il n'y a plus de sous nulle part, donc il faut que les prix augmentent. Voilà, c'est tout. Puis je pense aussi que l'euro y est pour quelque chose. Si on était resté au franc, je pense qu'on ne paierait pas aussi cher.
Les prix augmentent, mais le problème, c'est surtout les salaires.
Oui, c'est ça, oui.
Qui montent pas. Les prix augmentent parce qu'il y a certainement il y a des coûts de production il y a plus importants, mais c'est surtout les actionnaires qui par rapport à ça s'en mettent plein les poches. Quoi. Donc les prix ils augmentent. Mais le gros problème c'est que les salaires et les retraites n'augmentent pas. Alors, parce que les prix augmentent, l'écart est de plus en plus grand.
Ah, ça c'est pour que la société ait pas mal d'argent.
Qu'est-ce qui justifie la valeur d'un produit ?
Sa qualité. et son efficacité.
Oui, d'accord. Toutes les taxes de l'État, voilà. S'il y avait moins de taxes, on paierait moins cher.
Alors, un produit, une maison, c'est un produit, une brosse à dents, c'est un produit. Qu'est-ce qui justifie la valeur
Bah, un shampoing, c'est un produit, enfin... La qualité.
La qualité.
Là, ça.
Bien vu.
Et puis, que peut-on faire pour lutter contre l'augmentation?
Produire français et vendre français. Et, et consommer français.
On n'y peut pas grand-chose. Hein. On nous l'impose. Hein. On n'y peut pas grand-chose. Mais après, voir, faire des choix par rapport à des produits, voilà. On n'y peut pas grand-chose, on nous l'impose. Hein. C'est le système économique qui nous l'impose. Donc en tant que citoyen, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, c'est... Moi, quand je vais faire mes courses, hein, par rapport à un même produit, bon, un lave-vaisselle, je vais forcément prendre le moins cher.
Voilà. Oui, c'est normal. Ben justement, baisser les prix dans les magasins, justement. Baisser les taxes. La taxe. Comment on dit? Taxe.
C'est ça, la TVA?
Ouais.
Oui, oui.
Faire baisser la TVA.
Merci de m'avoir écouté. Et maintenant, je laisse la parole à Laureline.
C'est trop bien, la radio!
Principe Actif, 102.4 FM.
Bonjour, c'est Laureline sur la radio Principe Actif. Aujourd'hui, nous recevons Messaoud et Luc. Ils sont organisateurs de beaucoup d'événements, mais celui qui nous intéresse, c'est celui du samedi 29 mars à Évreux. Il s'agit aujourd'hui d'un concours international de battle qui se nomme Amazing Day. Alors... Pour les auditeurs qui ne connaissent pas ce qu'est une battle, pouvez-vous nous expliquer ce que c'est?
C'est pour moi.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, tout simplement, un battle, c'est... Enfin, nous, ce qu'on appelle un battle dans le milieu, c'est une compétition. Donc, ça consiste à deux équipes en face à face. Donc, je ne sais pas si toi, tu connais. Donc, c'est soit en solo, c'est-à-dire que les deux équipes face à face, il y a un danseur qui va rentrer, il va exécuter ses mouvements, et le deuxième va rentrer à sa suite. Voilà. Et on a des juges qui vont délibérer pour savoir qui a fait le meilleur passage. Donc, parfois, c'est soit en solitaire, donc un par un, ou par deux, ou en trois par trois. Dans ce cas-là, on appelle ça, nous, des combinaisons.
D'accord.
Simplement.
D'accord, merci. Lors de l'événement, y avait-il du monde et une bonne ambiance ?
Alors oui, il y avait du monde. On va compter à peu près 1500 personnes environ. Et une très bonne ambiance. Un public à Évreux assez dynamique.
Le public a-t-il été conquis ?
Mais oui, il était conquis. Archi conquis même. Ils nous ont crié, on nous a demandé.
On nous demande déjà quand est-ce qu'est la prochaine.
Donc, voilà.
On donne rendez-vous à tout le monde l'année prochaine.
Exactement.
À peu près à la même date.
Pourquoi avoir choisi d'organiser ce spectacle ?
Ah, pourquoi on a choisi d'organiser ça ? C'est en somme assez simple. Dans la région, il n'y a pas d'événement de cette ampleur. Donc juste pour resituer un peu, c'est un événement de danse qui est international, c'est une compétition mondiale. Donc ce qu'on a proposé donc ce samedi, c'était des danseurs qui sont connus internationalement.
Quel était le prix de l'entrée ?
Le prix de l'entrée, c'était 10 euros.
Pas très cher, 10 euros.
Pour faire venir les danseurs, on s'y prend comment ?
Alors,
c'est mon collègue qui va répondre, c'est lui qui s'occupait.
On s'y prend comment ? Déjà, on sélectionne l'équipe qu'on veut faire venir. Donc ça, c'est de la recherche via Internet, YouTube, les réseaux sociaux. Après, il faut les contacter, leur parler généralement en anglais. Discuter des modalités. S'ils veulent déjà venir représenter leur pays dans cet événement. Et après, on sélectionne des jours auxquels ils peuvent être ici à Évreux et les faire venir en avion et prendre tout en charge.
Ouais. Généralement, c'est assez souvent l'avion, sauf pour les pays comme par exemple la Belgique qui sont pas très très loin, ou la Team Europe qui était composée d'un Espagnol, d'un Français
et d'un
Hollandais. Eux viennent soit directement en train ou en voiture. Donc là, encore une fois, on s'arrange avec eux, on leur demande quand est-ce qu'ils veulent venir, parce qu'on leur laisse un peu le choix. Donc, généralement, on leur laisse deux jours à l'hôtel pour qu'ils puissent être en forme, bien évidemment.
D'où venaient-ils ?
Alors, on en a eu un peu partout. Donc, comme je viens de le dire, on a une team européenne avec trois membres, un Français, un Espagnol et un Hollandais. On avait une team belgique, on avait des Coréens, des Marocains, on avait des Russes, on avait une team française aussi.
Et un Américain.
Et, ouais. Donc, à la base, on avait une équipe américaine. Malheureusement, deux Américains sur trois n'ont pas pu venir. Pour faute d'avion et avec les décalages horaires, c'était impossible à prendre puisqu'il y en a un qui venait de Phoenix, donc c'est quasiment 12-14 heures de décalage horaire. Donc l'avion suivant l'amenait directement le dimanche, ce qui ne nous intéressait pas spécialement.
Combien étaient-ils ?
Combien étaient-ils ? Danseurs ?
Oui.
Alors ils étaient 26 danseurs. Il y a 8 équipes de 3 et un battle exhibition. Donc là, c'est un battle. Un contre un, juste pour le kiff. Et non, on était plus que 26.
Oui, parce qu'il y avait 16 danseurs en plus sur place. En fait, on avait 7 équipes invitées internationales. Et pour donner l'occasion à la population donc avoisinante et de la région de s'affronter contre des personnes connues mondialement, on a créé une qualification le jour même. Donc on a sélectionné, nous, auparavant, 16 danseurs de la région, et on leur a dit, écoutez, donc ce jour-là, ce sera vous qui allez essayer de former une équipe. Donc il y avait 3 places en jeu. Donc bien évidemment, il y avait eu 3 fois 8 et donc il y en avait beaucoup plus, eu une quarantaine de danseurs sur place.
D'accord. Était-ce la première édition ?
Non, c'est la 3e édition du Battle Amazing Day. La 4e édition d'un battle international que nous, on organise. Et j'espère pas la dernière.
Y avait-il des jurys présents ?
Oui, 3 jurys renommés, connus, qui ont l'habitude de faire ça. Ils avaient bien évidemment des critères qu'ils ont soumis aux danseurs et qui ont bien fait leur travail, je pense.
Il y a toujours des jurys, c'est obligatoire, sinon on ne peut pas délibérer les battles. C'est leur rôle.
Et comment c'était noté ?
Alors, comme il vient de le dire, ils avaient des critères de sélection. Donc, ce qu'on a fait pour, pour ceux qui ne sont pas habitués au battle ou qui n'y connaissent peut-être pas rien du tout, peut-être, on avait fait des vidéos donc, des juges auparavant, donc, expliquant leurs critères, sur quoi ils allaient se baser. Donc après, chacun a plus ou moins leurs critères de base, en fait. Et c'est pour ça qu'on a sélectionné trois juges qui sont différents, qui excellent dans des domaines différents. Donc notamment, on avait Domka qui, lui, on va dire, ce qu'on appelle des all-rounded, en fait, il note un peu tout. On avait Meda qui était plus sur les côtés power move. Donc on avait déjà eu une conversation là-dessus. Les power move, c'est tout ce qui est mouvement, tourner sur la tête, tout ce qui est en rotation. Et on avait un troisième danseur qui s'appelait Jay, qui est beaucoup plus, lui, sur les footwork, tout ça. Donc leurs trois jugements n'en font qu'un, mais les critères étaient donnés auparavant.
Faites-vous partie de l'association Breaker ?
Oui, moi je suis le président de l'association, je suis aussi le professeur de danse pour les cours qu'on donne toute l'année. Et Luc a intégré l'association cette année, et son rôle c'est tout ce qui est visuel, graphiste, communication au niveau de l'association.
On va dire chargé de communication.
Chargé de communication, voilà.
Quel est son objectif, pardon ?
Alors, l'objectif de l'association, déjà, l'enseignement, ça c'est la première chose, on a commencé par ça. Après, avec l'enseignement, on fait de l'insertion, on aide les jeunes en difficulté qui sont plus à l'école, qui ont envie de faire des activités autres que rester au foyer ou dehors, etc. Donc on aide à ces jeunes à se réinsérer et puis à les emmener dans le droit chemin. On fait de la diffusion, donc là ce qu'on a fait, le Amazing Day, c'est de la diffusion. On organise des gros et moyens et petits événements, et on fait aussi nous-mêmes avec nos jeunes des compétitions, c'est-à-dire qu'on les emmène dans d'autres villes pour affronter d'autres jeunes et pour qu'ils puissent voir ce que ça donne aussi autre part et pas que chez eux à Évreux.
Elle existe depuis combien de temps ?
29 août 2000. J'ai encore la date en tête. Elle existe depuis, oui, 29 août 2000. Et puis, il y a eu des hauts, des bas, mais elle est toujours là.
D'accord. Merci Messaoud et Luc d'avoir répondu à mes questions.
Merci à toi.
Merci à toi. À bientôt.
Salut.
Maintenant, on va continuer sur ma chronique. Je vais vous donner ma vision de la dancehall et du hip-hop. La dancehall est une danse qui vient de Jamaïque. C'est une danse originale et énergique. De nos jours, le reggae dancehall francophone est représenté par des artistes comme Tahiro, Admiralty, Chris, Saïk, Kalash ou encore Kaf Malbar. Le hip-hop est un mouvement culturel apparu aux États-Unis à New York au début des années 1970. La culture hip-hop arrive en France en novembre 1982. L'appellation hip-hop reprend différentes formes d'art comme le rap, la danse, le graffiti. Ces disciplines sont apparues avant le hip-hop. La culture hip-hop est popularisée pour la première fois en France grâce à l'animateur, DJ et musicien Sydney. Son émission HIP HOP a été diffusée sur TF1 de janvier à décembre 1984. Depuis, la danse hip-hop n'a pas cessé de prendre de l'ampleur. Nous sommes arrivés à la fin de ma chronique. J'espère que cela vous a plu. Tout de suite, une pause musicale. Of sunrise, I saw the life. C'était Rihanna avec le morceau Diamonds.
Respirez à fond.
Principe actif, 102.4 FM.
Bonjour, je m'appelle Dylan, élève de 4e au collège Georges Polidzer. Je suis allé à la rencontre de Michael. Cuistot au 7, je vais proposer l'écoute de notre échange.
Aujourd'hui, nous allons parler de la restauration. Et nous allons interviewer Michael, chef cuisinier de la brasserie Le Seven, que nous allons un petit peu cuisiner. Êtes-vous prêt, monsieur ?
Ouais, c'est bon.
Quelle formation ou quel parcours avez-vous suivi pour être cuisinier ?
J'ai suivi un CAP et BEP de cuisine.
D'accord. Depuis combien de temps êtes-vous cuisinier ?
18 ans.
Le métier de cuisinier est-il difficile ?
Oui.
Pourquoi ?
Oui, oui. Bah, parce que c'est un métier qu'il faut aimer avant tout. C'est difficile, il faut être organisé, rapide. Et vraiment aimer ça.
Est-ce que vous êtes vraiment passionné par la cuisine, par votre métier ?
Oui, oui, oui. Parce que quand on en fait depuis 18 ans, il faut vraiment aimer. Parce que je connais beaucoup de personnes qui en ont fait et qui ont vite arrêté.
Quel outil indispensable pour un cuisinier ?
Les couteaux.
Est-ce que vous cuisinez des produits frais ou des produits congelés ?
On cuisine les deux au 7. Comme on n'est que deux en cuisine et il faut que ce soit rapide. Pour le midi, c'est une brasserie. Donc on ne peut pas faire que des produits frais. Sinon, il y aurait beaucoup moins de choix en fait.
Où achetez-vous vos produits ?
Alors on a plusieurs fournisseurs en fait. On se fait livrer et on va chercher aussi.
Utilisez-vous des produits bio ?
Non.
Pourquoi ?
Pas de produits bio. Bah parce que pour une brasserie, enfin pour une brasserie comme la nôtre, c'est ce serait vraiment pas. On va stopper.
Le bio est-il bon pour la santé ?
Oh, je pense que oui, oui, c'est naturel, oui, ça peut être que bon. Oui.
Est-ce que vous êtes contrôlé régulièrement en ce qui concerne l'hygiène alimentaire ?
Alors, depuis que je suis ici, on a été contrôlé 2 fois. Donc, si c'est beaucoup, je peux pas dire.
D'où viennent vos idées ?
Alors essentiellement de la météo en fait. Si on fait un gros plat style bourguignon en plein été, ça va pas partir et c'est pas le but. Donc en fait on se base beaucoup sur la météo en fait.
Avez-vous un menu préféré ?
Non, pas spécialement, j'aime bien travailler les poissons.
Lesquels ?
Lesquels, que ce soit eau douce ou eau de mer, voilà, tout en principal comme poisson en fait.
Changez-vous vos menus ?
Alors, on fait des plats du jour différents tous les jours, avec un dessert du jour pareil, tous les jours différent. Après, on a une carte de base.
Ok. Combien êtes-vous en cuisine ?
Deux le midi et tout seul le soir.
Avez-vous déjà rencontré des critiques gastronomiques ?
Non, jamais.
D'accord. Regardez-vous des émissions de cuisine ?
Ça m'arrive parfois.
Lesquelles ?
Masterchef, sur ce que je tombe en fait.
D'accord. Merci d'avoir répondu à nos questions. À bientôt dans votre restaurant, Michael.
Merci.
Au revoir.
À toi. Merci.
Et merci d'avoir répondu à nos questions. À bientôt dans votre restaurant, Michael. Donc, Michael travaille au Seven. Et si vous voulez bien rester en notre compagnie, tout de suite, un micro-trottoir qui devrait vous intéresser. Nous avons demandé à des passants s'ils aimaient le restaurant. Pourquoi aimez-vous aller au restaurant ?
Alors, j'aime bien le restaurant pour déguster les spécialités, surtout au bord de la mer, les plateaux de fruits de mer. Aussi, quand on va en vacances, par exemple en Savoie, on peut déguster de la tartiflette. En Bretagne, des crêpes. En Normandie, avec les spécialités avec la crème fraîche. Et dans d'autres régions, dans le midi, les spécialités du midi.
Ça fait de la vaisselle en moins à faire chez moi.
Bah, ça évite de faire à manger déjà. Hein, c'est un gain de temps.
D'accord. À quelle fréquence vous y allez au restaurant ?
Ouais, j'y vais 2-3 fois l'année environ.
D'accord. Une fois tous les mois ?
Si je peux, 2 ou 3 fois par semaine.
Les hommes et tous les mêmes, macho mais tu, monde de ma vie est infidèle, si prévisible, non je ne suis pas certaine, que tu le mérites, avec de la chance qu'on vous aime, dis-moi merci. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement, rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Cette fois c'était la dernière. Tu peux croire que c'est qu'une crise. Mate une dernière fois mon derrière. Il est à côté de mes valises. Tu diras au revoir à ta mère. Elle qui t'idéalise. Tu ne vois même pas tout ce que tu perds. Avec une autre ce serait pire. Quoi toi aussi tu veux finir maintenant. C'est le monde à l'envers. Moi je le disais pour te faire réagir seulement. Toi t'y pensais. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous. Prochain règlement, rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Facile à dire, je suis gnangnan. Et que j'aime trop les blablabla. Mais non, 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 c'est important. Ce que t'appelles les ragnagnas. Tu sais, la vie, c'est des enfants. Et comme toujours, c'est pas le bon moment. Ah oui, pour les faire, là, tu es présent. Mais pour les élever, y'aura des absents. Lorsque je ne serai plus belle. Ou du moins au naturel. Arrête, je sais que tu mens. Il n'y a que Kate Moss qui est éternel. Moche ou belle,
c'est jamais bon.
Bête ou belle,
c'est jamais bon.
Belle ou moi,
c'est jamais bon.
Moi ou elle,
c'est jamais bon.
Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. les mêmes, et y'en a marre. Tous les mêmes, tous les mêmes, tous les mêmes, et y'en a marre. Tous les mêmes, tous les mêmes, tous les mêmes, et y'en a marre. Tous les mêmes, tous les mêmes, tous les mêmes.
C'était Stromae, tous les mêmes. C'était Dylan au micro de Principe Actif.
Principe Actif, 102.4 FM. Principe Actif, 102.4 FM. Principe Actif, Principe Actif, Principe Actif, Principe Actif.
Bonjour, je m'appelle Tom. Aujourd'hui, je vais vous parler du piratage informatique avec Brian, informaticien professionnel. Bonjour Brian.
Bonjour.
Ça va?
Très bien, et vous?
D'accord. Si vous êtes prêts, on peut commencer alors.
Oui, oui, allez-y.
D'accord. Comme beaucoup d'autres jeunes qui n'ont pas les moyens d'acheter des DVD, des jeux vidéo, je pirate un peu sur Internet. Quels sont les risques pour moi?
Alors, les risques, c'est de se faire attraper par l'État, notamment avec Adopi et autres organismes. Donc après, ce sont des amendes. Enfin, il y a d'abord un avertissement, puis des amendes. Alors, je ne connais plus le montant exactement. Donc, voilà. Et après, il y a aussi un risque moral, on va dire, vu que en téléchargeant, en piratant, on empêche les personnes qui ont créé ces œuvres de vivre finalement en étant rémunérées par le visionnage de leurs œuvres.
D'accord. Existe-t-il une autre solution que de pirater des films et des jeux vidéo?
Alors, pour les films et les séries télé, pour les musiques, il y a les services de VOD qui sont, en fait, plutôt que d'acheter une œuvre, on la loue. Ça est en train de se mettre en place doucement en France. Sur les box internet, par exemple, c'est mis en place, mais c'est encore trop cher. Donc, par exemple, aux États-Unis, c'est mis en place, c'est sous forme de forfait, c'est... 10-15 dollars par mois, et à ce prix-là, on a accès à tous les films, toutes les séries de façon illimitée. Pour la musique, en France, c'est déjà en place, notamment avec des sociétés comme Spotify, Deezer, qui, eux, proposent des forfaits à 10-15 euros par mois pour qu'on puisse écouter tout un catalogue de musique légalement.
D'accord. Et pour les jeux vidéo ?
Alors pour les jeux vidéo, j'avoue que je ne m'y connais beaucoup moins. Je crois qu'il y a une ou deux sociétés qui fait la même chose, mais je ne saurais pas m'avancer.
D'accord. Qu'est-ce qu'un logiciel libre ?
Alors un logiciel libre, c'est ça peut être plein de choses, mais dans le sens le plus commun du terme, c'est un logiciel qui est créé par une communauté ou une seule personne, mais qui décide de ne pas conserver les droits d'auteur de diffusion dessus, ce qui veut dire que n'importe qui peut le récupérer gratuitement, légalement, le modifier, le distribuer, en faire ce qu'il veut en fait.
D'accord. Combien de temps cela vous prend pour créer un logiciel libre ?
Alors là, ça dépend du logiciel. Il y a des logiciels très petit, très rapide à faire qui prendront que quelques jours, d'autres qui prendront des années et encore d'autres qui prendront toute une vie. Ça dépend du logiciel.
D'accord. Et comment les créez-vous ?
Alors, les logiciels sont créés pour la plupart, c'est des lignes de code, donc de la programmation informatique. C'est des algorithmes en fait. Et avec ça, on rajoute une couche graphisme, donc c'est du dessin, pour simplifier. Et voilà.
Pouvez-vous me citer des noms de logiciels libres ?
Des noms de logiciels libres connus du grand public, je ne saurais dire. Il y a HHVM créé par la société Facebook, qui est un moteur d'exécution. L'exécution d'un langage de programmation libre qu'on peut récupérer, modifier, etc. Il y a le serveur web Apache qui permet d'héberger des sites internet et de les diffuser. Qui, pareil, c'est libre, c'est gratuit, on en fait ce qu'on veut.
D'accord. Avez-vous déjà téléchargé illégalement ?
Oui.
Pourquoi ?
Comme beaucoup de personnes, c'est trop cher en France pour l'instant, pour trop d'intermédiaires qui s'en mettent plein les poches.
Quel est le dernier site que vous avez créé ?
Alors, le dernier site que j'ai créé, j'avoue que je ne peux pas trop vous le dire à l'antenne vu que je suis soumis à des contrats de confidentialité. Donc le dernier que j'ai le droit de vous en parler, c'est j'ai travaillé sur le site de Voyage SNCF.
D'accord. Est-ce que l'informatique est votre passion ?
Oui.
Merci.
Tout à fait, c'est une passion depuis tout petit, depuis 14 ans.
D'accord. C'était Brian, informaticien professionnel. Merci d'avoir répondu à mes questions. Tout de suite, un micro-trottoir que j'ai réalisé devant la cathédrale en centre-ville d'Évreux sur le téléchargement illégal. Est-ce que vous vous téléchargez illégalement ?
Non.
Pourquoi ?
Si, je télécharge. Après, est-ce que c'est illégal ou pas ? C'est du partage, j'y connais pas grand-chose.
Pourquoi vous vous téléchargez illégalement ?
Parce que j'ai pas le temps d'aller au cinéma.
Ah oui ?
D'accord. Pourquoi ?
Je sais pas.
Parce que ça coûte trop cher ?
Voilà.
Non.
D'accord. Pourquoi ?
Parce que c'est interdit.
D'accord. Et qu'est-ce que vous téléchargez illégalement ?
Des séries américaines et des films.
Sur la forme et le fond, okay. J'observe la flore et la faune sous l'effet de la fleur, de la sueur sur le front. L'Eldorado n'est pas en forme d'hexagone. Agoun, t'as des preuves avant de m'inculper. Trop fier pour faire mon mea culpa. J'entends pas que la France nous vire à coups de pied. Pour capter qu'elle ne nous écoute pas, je n'oublie pas que chaque minute est chère et j'ai peur de périr sans chair. Dans mes veines d'Algérien, j'irène coule du sang de Moudjahed. J'ai mon public à chérir, mais il est possible que demain j'arrête. Tous les soirs, je suis déchiré, je reprends les en clic d'HL. J'arrive avec deux barres sur la paire de Fred, deux barres juste après le XV, deux barres sur l'uniforme de sang culé. Besoin d'une paire de couilles, pas d'un entraînement. Tu te manges des baffes en province, viens pas sur Paris faire de l'entraînement. Ça n'est pas changé, je prends toujours le game en one. Je suis parano mec, je suis pas renommé, à part pour la monnaie, je suis pas malhonnête, je suis ce parolier, qui peut renier que je vous parano mec, bande de marionnettes, je vais niquer des remèdes, tu vas pas me reconnaître, j'ai rien à espérer, rien à promettre, nul n'est à l'abri d'une rafale dans les pommettes, définir à fleur, il freine au pommettes, passez pas la pommade, je vais devenir vulgaire, je voulais juste une limonade des chiennes de guerre, comme un pointeur en promenade, prends sous terre sur Panam, ramenez pas des textes de je n'ai pas changé, je prends toujours le game en one.
Vous venez d'écouter One One de Ace Lemsi.
Buenas noches.
Tu parles espagnol?
Un poquito.
Mais tu crois que tu m'impressionnes? Moi, je sais dire allons à la plage, monsieur Renard. Vamos a la playa, señor Zorro.
Principe actif, le mix des cultures.
Et notre émission touche malheureusement à sa fin. Merci à Clément qui parlait du coût de la vie avec l'association UFS, Que Choisir. Et Laureline s'est exprimée sur la danse urbaine avec Messaoud et Luc, organisateurs de l'Amazing Day. Et moi-même qui vous parlais de la restauration avec Michael, chef cuisinier de la brasserie Le Seven. Tom qui présentait le piratage informatique avec Brian. Et un grand merci à Timothée qui a créé cette émission. Cette émission sera retrouvée sur le site internet de Principe Actif dans la rubrique podcast. Et à très bientôt.
Les émissions des quartiers.
C'était impressionnant quand même.